disent bravo. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier.
Je suis anarchiste. Nous allons repeindre la vie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées la plus belle.
Voilà, 19h passées de quelques minutes à la pendule la plus rebelle des radios. Il est l'heure du Canu Info, comme tous les jours de la semaine, 19h-20h. Nous sommes jeudi, donc c'est l'équipe du jeudi qui est ici présente, c'est-à-dire Delphine.
Bonsoir à tous et à toutes.
Et donc Laurent pour ce Canu Info de ce jeudi 16 février 2017. 2017, une année qui semble être quand même plutôt engagée vers... des choses peu sûres, on va dire, voire pas mal d'incertitudes. En effet, si vous suivez un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans la campagne électorale, on ne comprend pas tout, on ne sait pas bien où on va. Il faut dire que la mascarade électorale, qui est censée permettre aux partisans de la démocratie représentative de choisir un président de la République française, est pleine de rebondissements et d'incertitudes. Ainsi, vous avez remarqué que le candidat de la droite réactionnaire et capitaliste, M. Fillon, qui semble très très embourbé, hein, voire plus que jamais dans des affaires politico-financières, semble bien, bien bas aujourd'hui dans les sondages, mais aussi en tant qu'espoir pour le peuple de droite, puisqu'il paraît qu'il y a un peuple de droite. D'ailleurs, le parquet national financier a déclaré hier qu'il n'envisageait pas de classement sans suite en l'état, comme ils disent, des affaires entourant les emplois fictifs des proches de Fillon. Donc, la justice est toujours en cours. Elle n'abandonne pas le cas Fillon. De son côté, le candidat socialiste, M. Hamon, et c'est lui, tant bien que mal, de convaincre sur ses prétendues intentions écologistes, vraisemblablement avec l'espoir de récupérer quelques voix ou quelques soutiens de la part des écolos. Mais sa conversion à l'écologie semble toute relative et bien évidemment très 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 hypocrite. Quant aux candidats écolos eux-mêmes, notamment en vue des législatives, ils semblent bien plus concernés par les mandats qu'ils peuvent avoir ou garder que par la sauvegarde de la planète. Ne parlons pas de l'extrême droite, qui en jouant sur les peurs, peur des étrangers, peur des jeunes, peur de l'avenir, essaie, voire arrive à convaincre quelle est la solution face aux problèmes du monde moderne. Comme si le fascisme et le racisme pouvaient être une solution, pouvaient créer du bonheur. Sans oublier son soutien aux flics violents et violeurs. Reste le candidat libéral et ancien banquier, dont l'ascension ressemble au vol d'Icare, qui, à trop s'approcher du soleil, risque de retomber. Peut-être d'ailleurs sur la gueule de son ennemi Mélenchon, toujours en embuscade. Et c'est le risque d'être en embuscade, de se prendre quelque chose sur la gueule, voire un candidat libéral. Pendant ce temps, hein, bien évidemment, la vie continue, le nombre d'accidents du travail augmente tous les jours, sans émouvoir les candidats. La pollution atmosphérique attaque toujours nos poumons, sans faire tousser aucun des prétendants. Bref, la mascarade électorale, même incertaine, continue de plus belle. Alors bien évidemment, vous me direz, la France n'est pas la seule partie du monde qui va mal, la seule partie du monde où l'incertitude règne. Ainsi, la Syrie n'a toujours pas fait de pas vers la paix, malgré la conférence qui semblait très très mal partie d'Astana de ce jour et qui n'est arrivée à rien. De plus, l'incertitude au Proche-Orient reste très très forte au moment où le président Donald Trump joue l'ambiguïté avec son copain Netanyahou. Incertitude sur la solution à un ou deux États, dont un hypothétique État palestinien. Alors si la solution à deux États est à la mode depuis quelques années, véhiculée par l'ONU et par pas mal de gens, Il faut voir quand même qu'elle peut impliquer notamment l'expulsion des Arabes israéliens d'Israël, 20% de la population d'Israël. Elle implique aussi l'impossible retour des réfugiés de 1948 dans leur village, dans leur maison, dans leur terre. Et elle peut impliquer aussi la création d'une théocratie juive en lieu et place de la démocratie israélienne actuelle. De plus, la solution à un seul État, ça pourrait être l'inverse, c'est-à-dire ça pourrait être une démocratie non religieuse, binationale, regroupant les habitants de la région sans distinction, finalement, d'origine, de religion, de pensée. Alors, bien évidemment, ce n'est pas l'idée portée par une partie de l'extrême droite israélienne qui rêve, elle, d'un seul État, le fameux Grand Israël, hein, qui serait un État purgé, comme ils peuvent le dire, de tout élément palestinien. Bref, le problème n'est pas vraiment de choisir entre un ou deux États, mais plutôt quel genre d'État, quel genre de relation entre les populations de la région veut-on ou veulent-ils ? En tout cas, bref, rien n'est plus sûr, rien n'a jamais été sûr finalement dans ce coin du monde. Alors, au milieu de tant d'ambiguïté, il nous reste quand même quelques certitudes. Pour terminer cette petite intro sur le Canu Info, les certitudes, hein, on en a quelques-unes. Par exemple, que la police et les forces de répression en général ne nous aiment pas, nous, les militants, les pauvres, les noirs, les arabes, les homos, les femmes, enfin bon, bref, etc. La liste est malheureusement très très longue. On pourrait donner en exemple aussi que le MEDEF et le capitalisme ne veulent toujours pas notre bonheur, mais simplement le bonheur de leurs amis, des puissants, de ceux qui détiennent l'argent. Et puis, on constatera quand même aujourd'hui encore que la mort rôde toujours avec beaucoup de certitude, beaucoup trop de certitude, dans certaines régions du monde, hein, comme le Pakistan ou l'Irak. Aujourd'hui, deux attentats ont tué des dizaines de personnes. Bref, le Canu Info va vous souhaiter quand même de bonnes vacances pour celles et ceux qui vont en avoir. Vacances que l'on vous souhaite sans Dieu, sans gourou, sans maître, sans patron. En attendant, nous allons revenir sur quelques sujets de l'actualité du jour. Notamment, on va parler un petit peu de colonisation de la droite et de l'extrême droite française. On va parler un peu de Corée du Nord, de peine de mort, les barbares comme on dit entre nous. On va parler aussi de choses un peu en lien avec les migrants. On parlera de ceux qui veulent ou qui vont travailler le dimanche. On parlera un petit peu d'environnement et on finira par du théâtre.
Oui, juste avant que tu enchaînes, pour rappeler que le 16 février 97, la librairie La Plume Noire était incendiée par les fascistes. Voilà, je voulais juste vous le rappeler. C'était un 16 février.
On va revenir sur les déclarations du candidat Macron sur la colonisation en Algérie qui a ému, on va dire, voire énervé tous les fachos de par la France, on va dire. Alors il a dit, je vais redire la phrase exacte, la colonisation fait partie de l'histoire française, c'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et de ceux envers lesquels nous avons commis ces gestes. Alors ce genre de propos, à part le crime contre l'humanité qui est un petit peu excessif, en tout cas c'est un vrai crime contre les colonisés, hein, parce que l'humanité, les colonisés ne représentaient pas toute l'humanité. À part ça, il n'y a rien à redire, c'est une déclaration classique d'extrême gauche. Alors bizarrement, c'est Macron qui la tient, dans des vues électoralistes bien sûr. Bon, ça a fait réagir, on attendait l'extrême droite, bien évidemment, donc qui se sont mis à hurler. Et puis la droite, dite républicaine, qui est toujours nostalgique hein, finalement de cette colonisation. C'est assez drôle, hein, ou triste, ou horrible, vous pouvez utiliser le mot que vous voulez, de voir qu'ils n'ont pas évolué, qu'ils n'ont pas compris l'histoire, qu'ils sont toujours sur cette idée que la France est un pays supérieur aux autres, et que donc quand elle colonisait, elle apportait sa supériorité, elle apportait son éducation, son savoir. Or, les études historiques ont montré que ce n'était pas tout à fait ça. En tout cas, que la colonisation française a été tout sauf un respect des populations. Hein, on a nié leur passé, leur histoire, voire leur religion, leurs habitudes, leurs coutumes, tout, en fait, ce qui faisait d'eux des êtres humains. On les a déshumanisés pour essayer de les transformer. Une attitude réellement fasciste, hein, d'arriver comme ça et de s'imposer en disant « Nous, nous sommes la vérité, nous sommes l'histoire, nous allons vous apprendre. » Du coup, vous connaissez toutes ces histoires où on apprenait aux petits noirs dans les écoles en Afrique sous influence, sous colonisation française, que leur histoire, leur passé, c'était les Gaulois. hein, bien évidemment. Comment apprendre des trucs faux, puisque les Gaulois ne représentaient rien, hein, pour ces petits Africains. Ça marche pour les Maghrébins aussi, du nord de l'Afrique. Enfin voilà, la colonisation qui a pu avoir quelques aspects négatifs, mais ces aspects positifs, je veux dire, ces aspects positifs étaient tellement faibles devant tous les aspects négatifs. Aujourd'hui, il est difficile de dire que c'était une période positive de l'histoire. Pourtant, c'est ce qu'essayent de faire passer certains, comme Gérald Darmanin, qui est un député des Républicains et qui a tweeté, je cite, « Honte à Emmanuel Macron qui insulte la France à l'étranger ». Et après, il a dit un truc que j'ai pas compris. « La colonisation de la France était un crime contre l'humanité ». Bon, moi j'ai pas vécu de colonisation en France, hein. On a été occupé, enfin la France a été occupée, moi j'étais pas là, pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c'était pas de la colonisation, hein, c'était une occupation. Il faut quand même différencier les choses, hein. Il y avait un gouvernement d'extrême droite à l'époque en France, hein, dirigé par un militaire bien connu, dont l'extrême droite est nostalgique d'ailleurs, hein, du maréchal Pétain. Enfin voilà, donc la colonisation en France, moi je l'ai pas connue. Bien sûr, on peut parler des Romains, mais ça remonte tellement loin que finalement, c'est juste une part de l'histoire, mais c'est ni positif ni négatif pour nous qui ne l'avons pas vécu. Or, la colonisation française en Afrique du Nord, eh ben les gens qui l'ont vécu, ils sont toujours vivants. Donc pour eux, c'est pas du passé, c'est pas un truc qu'on peut analyser, c'est un truc qu'ils ont vécu violemment, violemment physiquement, mais violemment dans leur conscience. Donc voilà. Alors bien sûr, Valéran de Saint-Just, trésorier du parti du Front National, lui, il dit que le ministre, l'ancien ministre de l'économie, a tiré dans le dos de la France. C'est marrant, hein, constater ce que la France a pu faire, c'est tirer dans le dos de la France. Ils sont vraiment très très loin. Ils ont tous ces gens de droite et d'extrême droite ont toujours eu une énorme envie de réécrire l'histoire. On se rappelle du début de la campagne où François Fillon avait osé dire que la colonisation, c'était que la France voulait partager sa culture aux peuples d'Afrique, hein, alors que c'était simplement nier la culture des peuples d'Afrique, entre autres. Enfin voilà, c'est une réaction, des réactions qui sont aujourd'hui incompréhensibles. On pense que ces gens de droite ou d'extrême droite ont évolué, ont compris, ont analysé l'histoire, ont compris que la France, à l'époque, ils en sont pas responsables. Le pire, c'est que c'est la France, c'est-à-dire des gens avant eux, avant nous, qui habitons ici, ils ont commis des atrocités, ils ont fait des crimes, mais nous n'en sommes pas responsables non plus. Et ben eux se sentent toujours responsables parce que finalement, on se rend compte qu'ils s'en sentent responsables parce qu'ils défendent toujours ces idées-là. Ils pensent toujours être supérieurs aux autres. Ils pensent toujours que les gens en face, de l'autre côté de la Méditerranée, de l'autre côté de l'Atlantique, de l'autre côté de je ne sais où, de l'autre côté de la frontière, et ben n'ont pas de culture, n'ont pas besoin d'être respectés. Et on arrive à ces propos qui sont vraiment haineux au possible. Et je vais le dire, pour une fois, Emmanuel Macron a dit une chose intelligente, même si il ne le pense peut-être pas vraiment et qu'il l'a fait pour des raisons électoralistes. Voilà.
On pourrait ajouter... Monsieur Macron, c'est quelqu'un qui est bien entouré et qui s'est causé. Il a fait une série de tweets en quatre parties hier pour répondre aux attaques. Le deuxième, je le trouve assez intelligent. C'est écrit « La France a importé la Déclaration des droits de l'homme en Algérie, mais elle a oublié de la lire ».
Ouais, hein,
Et je trouve que c'est une réponse intelligente aussi qui est faite. Elle est brutale pour certains, mais elle est bien vraie. Je la trouve intelligente, voilà. On peut reconnaître quand certains politiques savent répondre aussi à la bêtise. Alors, et à la haine.
Allons vers un régime plein de bêtises et de haine,
oui.
La Corée du Nord.
Alors d'abord, nous pourrions noter que ce 16 février, la Corée du Nord célèbre...
un anniversaire.
Oui, d'une manière volontaire ou d'une manière forcée, l'anniversaire de Kim Jong-il, le père de Kim Jong-un, le chef actuel de la Corée du Nord. Alors officiellement, Kim Jong-il est né en 1942 sur les pentes du mont Paekgu, vous savez, ce mont symbolique et célèbre. Bon, en fait, il serait né un an plus tôt en Union soviétique, où son père Kim Il-sung vivait en exil. Mais bon, ça, c'est l'histoire de la Corée du Nord, il faut y faire avec. Alors,
c'est un peu comme les fachos de Sénou, ils ont tout réécrit quand même.
Oui, mais c'est différent hein, quand même. Hein. Alors, vous avez donc entendu parler de ce qui est arrivé au demi-frère Kim Jong-nam, le demi-frère de Kim Jong-un. Les autorités de Malaisie ont officiellement reconnu ce jeudi que l'homme assassiné lundi dans le terminal de l'aéroport international de Kuala Lumpur était bien Kim Jong-nam, le grand demi-frère donc du chef actuel de la Corée du Nord. Pour ce qu'on en sait, il aurait été assassiné par deux femmes au terminal 2. Lundi matin, vers 9h, il était en train d'attendre son avion à destination de Macao. Et il est décédé lors de son transport vers l'hôpital. Alors, on a d'abord parlé de seringue, de piqûres. Bon, a priori, les deux femmes auraient pulvérisé un produit toxique sur le visage de Kim Jong-nam. Alors, qui a donc fait ça? Alors, évidemment, tout le monde se tourne vers la Corée du Nord. Les deux femmes sont soupçonnées d'être des agents des services secrets nord-coréens. Alors, Radio Free Asia, qui est une radio de propagande, il faut le dire aussi, a fait témoigner un transfuge nord-coréen qui explique qu'elle pourrait appartenir à une unité féminine baptisée le peloton des pivoines, qui est composée que de femmes âgées de 10 à 29 ans. C'est des espèces de tueuses espionnes, un peu comme dans les films hollywoodiens, vous voyez. Alors, il y a une première femme qui a été interpellée hier à l'aéroport, en possession d'un passeport vietnamien. Et puis, une autre femme, la deuxième, a été arrêtée, elle, avec un passeport indonésien. Alors bon, il y a des spécialistes qui disent que c'est bizarre qu'elle n'ait pas eu le temps de se suicider. Bah, oui, hein, qu'est-ce que vous voulez, c'est peut-être aussi... c'est tous les mystères de la Corée du Nord, c'est qu'il y a beaucoup de littérature, mais en fait, on n'en sait pas trop. C'est pour ça qu'au début, quand cette affaire d'assassinat est arrivée, on se disait encore ouais, alors c'est la Corée du Sud et les médias qui en mettent une petite couche, puis il se révèle hein, que tout ça est bien vrai, comme au cinéma. Alors, il semblerait que pour la police malaisienne, il y a un total de 4 hommes et donc ces deux femmes qui sont impliquées dans cet assassinat. L'ambassadeur de Corée du Nord en Malaisie s'est déplacé hier à l'hôpital de Kuala Lumpur pour assister à l'autopsie du corps de Kim Jong-nam. L'ambassade de Corée du Nord avait demandé le retour du corps de Kim Jong-nam et les autorités malaisiennes avaient fait savoir qu'elles voulaient vraiment pratiquer cette autopsie, donc elles ont quand même dû insister auprès de la Corée du Nord. Et puis finalement, ce jeudi, le gouvernement malaisien a déclaré remettre le corps à la Corée du Nord. L'autopsie est faite, on attend maintenant les résultats. Alors c'est quand même assez rocambolesque tout ça, c'est quand même assez dingue. Il faut rappeler que c'est un héritier déchu, il aurait dû succéder à Kim Jong-il. C'est lui l'aîné hein, dans la famille. Et on se souvient souvent de cette histoire en 2001, quand il était arrêté. Il avait été arrêté à l'aéroport de Tokyo, au Japon. Il avait essayé de rentrer dans le pays avec un passeport dominicain. Il était accompagné de ses deux femmes et d'un enfant, de son fils. Il avait expliqué alors qu'il avait voulu se rendre ou à Disneyland. Donc c'est vrai qu'il garde ce côté fêtard, qui aime le luxe. Il faut se rappeler qu'il a fait, comme son petit frère, ses études en Suisse et il en avait quand même ramené un certain goût du luxe et d'une certaine bourgeoisie européenne. Donc depuis sa disgrâce, il vivait à l'étranger, dont en Chine et à Macao. D'ailleurs, il possédait deux passeports, un à son vrai nom, et puis un au nom de Kim Scholl, qui est un pseudonyme qui revient hein, souvent. D'ailleurs, tout le monde parle beaucoup de cette page Facebook au nom de Kim Scholl. Alors, il y avait déjà eu une tentative d'assassinat contre Kim Jong-nam en 2012. Et évidemment, on se demande c'est quoi les motivations. Alors, on peut dire qu'il y a deux pistes. Deux grandes pistes. Une première piste familiale, liée finalement au pouvoir, c'est-à-dire que le petit frère Kim Jong-un a beaucoup fait le ménage hein, depuis qu'il est en place. Il nettoie, il exécute, il fait disparaître. Et finalement, ce grand frère était un peu gênant, puisqu'on en avait, je vous le disais, une image un peu fêtarde, mais malgré tout, il était proche d'une certaine partie de l'élite nord-coréenne. Il était très proche de son oncle Chang Chung-taek. Vous vous souvenez, c'est l'ongle qui avait disparu et qui a été exécuté en 2013. C'est finalement ce qu'on avait appris. Donc, on pourrait penser qu'il y a un nettoyage un peu de ce côté de la famille. Et puis, ce frère était un peu gênant parce que pendant un moment, bah, il avait un peu causé dans la presse sud-coréenne, par exemple. Et puis, il tapait un petit peu sur son frère. Alors, il ne faut pas non plus voir Kim Jong-nam comme un opposant politique. Hein. Il n'a pas été jusque-là. Mais c'est vrai qu'il était l'aîné des frères. contraire, il aurait pu unir peut-être des opposants de l'élite nord-coréenne. Donc peut-être que Kim Jong-un a voulu se débarrasser du grand frère, finalement un peu gênant. Et puis peut-être que Kim Jong-un est, comme on a pu le voir dans certains films, peut-être un peu barjo, et qu'il fait le grand nettoyage comme un certain nombre de dictateurs. Alors, la deuxième piste qui est très intéressante, c'est la piste de l'argent. On peut déjà se demander comment Kim Jong-nam pouvait vivre. C'était quoi ses revenus? Alors, il est un peu appelé le baron là-bas à Macao. Il s'était fait un peu de l'argent. On ne sait pas bien dans quelles activités, dans quelles affaires. Certains prétendent que les autorités chinoises le protégeaient et le finançaient en sous-main. Peut-être avec l'idée que si jamais ça se cassait la figure en Corée du Nord, il aurait pu peut-être être replacé comme étant peut-être légitime. Ça, l'une de ses femmes vit d'ailleurs à Pékin avec son fils. Mais c'est l'histoire, voilà, c'est une histoire de gros sous parce que je vous le disais, il était proche de cet oncle et cet oncle faisait des affaires, faisait des magouilles et il y a de l'argent noir qui a circulé et on pense que Kim Jong-nam a récupéré en fait cette manne financière et vivait là-dessus. Et puis il avait aussi hérité une partie des biens de son père, de Kim Jong-il. Donc c'était pas un déshérité, hein, il a été un peu déchu, mais a priori il avait pas trop de soucis d'argent. Donc voilà, c'est les deux pistes pour l'instant hein, qui sont soulevées. Très franchement, quelle idée là derrière Kim Jong-un il a eu, on sait pas bien, on peut, enfin ce serait difficile de penser que cet assassinat ne vienne pas de la Corée du Nord. Pour Kim Jong-un en tout cas c'est un moyen de montrer que c'est lui le chef, hein, il se débarrasse même de son demi-frère et puis qu'en plus de ça même si vous êtes à l'étranger il peut vous atteindre. Donc voilà, il montre encore une fois son autorité. Il faut savoir que du côté sud-coréen on réagit comment, en diffusant le lion de la DMZ, hein, de la zone démilitarisée entre les deux Corées, via 34 haut-parleurs fixes et 16 haut-parleurs mobiles, l'information comme quoi Kim Jong-un a fait assassiner son grand frère, histoire de rappeler au Nord que c'est un salopard. C'est vraiment ça l'idée, c'est comme quand il y a des jets de tracts au-dessus de la Corée du Nord, en tout cas le long de la frontière. L'idée elle est là. À côté, je vous rappelle que Kim Jong-un a fait péter dimanche son petit missile. C'était pas un gros, mais il montre quand même que il accueille avec joie Monsieur Trump à la tête des États-Unis d'Amérique.
Alors on va parler un petit peu des barbares, les pays qui pratiquent la peine de mort, et on va commencer par la France. Oui, parce que la France est concernée aussi par la peine de mort de manière directe ou indirecte. On va parler de Rachid Kassim. Donc c'est un djihadiste français, c'est comme ça qu'il est qualifié, commanditaire a priori d'une quinzaine de projets d'attentats visant la France, notamment celui de Saint-Étienne-du-Rouvray, et qui serait mort dans une attaque au drone il y a quelques jours. Alors on sait que c'était une des bêtes noires des services de renseignement, hein, qui le soupçonne de tous ces attentats, et vraisemblablement ce ne sont pas les Français qui l'ont tué, mais les drones de l'armée américaine. C'était près de Mossoul le 8 février au matin. Alors la frappe a bien été confirmée par les sources américaines et françaises, ça on le sait, par contre sa mort n'a jamais été confirmée officiellement. Sauf que hier, des proches de Rachid Kassim ont diffusé son testament audio donc sur Telegram, et vraisemblablement c'était pour montrer qu'il était mort, puisque dans ce testament il commence à dire si vous entendez ceci c'est que je suis mort, etc. Donc vraisemblablement il est mort donc assassiné par un drone de l'armée américaine. Alors c'est pas le premier hein, français assassiné par l'armée américaine. On se rappelle de Boubaker El Hakim, tué le 26 novembre dernier. Salah Eddine Gourma d'ailleurs, lui le 4 décembre dernier. C'est la politique américaine hein, de faire des assassinats ciblés des cadres et des responsables de l'État islamique, notamment ceux qui projettent des attentats, et puis le plus de têtes pensantes, on va dire, de l'État islamique possible. La problématique c'est est-ce que les États-Unis agissent tout seuls ou est-ce que la France est derrière tout ça? Et ça pose problème. Et alors, aujourd'hui, en France, tout le monde est très hypocrite là-dessus, même si, depuis un certain bouquin qui est sorti juste avant Noël, on sait que Hollande, à l'image de Barack Obama, commande des exécutions. Donc il fait pratiquer la peine de mort en dehors de tout passage devant la justice, puisque la peine de mort officiellement n'existe pas en France. Par contre, officieusement, Hollande, comme le faisait Obama, pratique donc la peine de mort de manière directe ou indirecte. Donc c'est pas très glorieux tout ça. Sur le djihadiste Rachid Qassim, on ne sait pas si les Américains agissent de manière autonome ou si il y a des accords, des discussions avec la France. En tout cas, on sait que la France pratique la peine de mort sur ses ressortissants et sur d'autres ressortissants à l'étranger, en dehors de tout cadre légal, puisque c'est au nom de l'armée, et l'armée a quasiment tous les droits. Donc voilà, c'était pour rappeler qu'on a beau être donneur de leçons sur la peine de mort, ça n'empêche pas de la pratiquer directement ou indirectement. Un pays qui la pratique, elle, directement, c'est le Koweït, puisque 7 personnes ont été pendues le 25 janvier dernier, à 6h du matin, à la prison centrale de Koweït. Donc voilà, 3 femmes exécutées. Dedans, il y avait une Koweïtienne. Elle avait mis le feu à une tente lors de la cérémonie de remariage de son époux, qui allait prendre donc une deuxième épouse. Et elle appréciait assez peu la chose. A priori, elle s'est énervée. Elle a mis le feu. Bon, ça a tué des gens au milieu. 2 autres femmes, c'était une Philippine et une Éthiopienne, qui étaient employées de maison. La troisième grosse groupe, c'est en fait des membres de la famille régnante. Alors ça, c'est quand même assez surprenant. C'est un peu comme la Corée du Nord, sauf que là, ils font des condamnations officielles pour tuer les gens de leur famille, même s'ils ont été condamnés parce qu'ils avaient tué d'autres personnes. A priori, les procès sont pas remis en cause. Après, il y a aussi 2 autres Égyptiens qui ont été condamnés. Mais je parlais des procès, et c'est là où on démontre toute l'absurdité de la peine de mort, parce que déjà, condamner quelqu'un à mort parce qu'il a tué quelqu'un, c'est un peu aberrant, puisque ce qu'on lui reproche, on le fait soi-même. Donc moi, j'aimerais qu'un jour, les bourreaux ou les gens qui condamnent à mort soient à leur tour condamnés à mort, et qu'on rentre dans ce cercle infernal, hein, parce qu'il n'y a aucune raison de tuer. Mais le pire dans tout ça, c'est la Philippine et l'Éthiopienne, des employés de maison, et notamment la Philippine, qui a été exécutée le 25 janvier, pour le meurtre de la fille de sa patronne, dans un procès qui était tout sauf régulier. L'ADN sur le couteau qu'elle aurait utilisé n'était pas le sien. Voilà. Donc il y a grosso modo aucune preuve contre cette mère de famille de 44 ans. Il y a d'ailleurs un parlementaire de son pays, des Philippines, qui est venue la défendre. Ça n'a pas suffi. Elle a donc été assassinée par l'État koweïtien, enfin pendue très exactement. Alors c'est un peu compliqué pour les Philippines et pour cet élu, parce que les Philippines sont en train d'essayer de rétablir la peine de mort. Donc c'est pas gagné. Mais en tout cas, ça nous rappelle que ces employés de maison, comme on dit, qui sont des véritables esclaves, hein, qu'on trouve un petit peu partout au Moyen-Orient, au Proche-Orient, hein, le Liban en est envahi quand même, on peut le dire, de ces personnes qui sont souvent proches de l'esclavage, et qui n'ont aucun droit, et en cas de problème, comme ça, se retrouvent devant les tribunaux avec des procès qui ne sont que des caricatures de justice. Ce qui a été le cas hein, de cette Philippine, et malgré un petit peu des mouvements de son pays et de la communauté internationale, a quand même été pendue haut et court. Donc voilà, c'est triste. Ce qu'il faut rappeler, c'est que ces dernières années, le Koweït n'avait pas condamné à mort. Il y avait une sorte de moratoire. Alors on ne sait pas si c'était un vrai moratoire ou si c'était comme ça que ça s'est passé, parce qu'il n'y avait pas eu d'affaires suffisamment importantes pour nécessiter la peine de mort. Mais en tout cas, ça fait 6 ans qu'il n'y avait pas eu de peine de mort au Koweït. Donc bon, il y a des gens qui avaient espoir un petit peu, mais bon, non. Et alors, 6 ans sans condamnation, et avril 2013, la dernière exécution, donc un peu moins de 4 ans, ben voilà, le Koweït a rebasculé du côté des gens qui pratiquent la peine de mort.
Alors, je vous racontais cette histoire de Ben posé devant un accès aux douches. Hein, vous oui. Vous souvenez, ça se passait à Calais, le Secours catholique installe des douches pour les migrants. Et je vous avais raconté que d'abord, c'est l'adjoint de la mairie qui vient avec sa voiture personnelle bloquer l'accès. Et puis finalement, c'est une Ben hein, qui est carrément posée devant. Ce qui a évidemment eu le don de hérisser le poil des équipes du Secours catholique. Et ben, la mairie de Calais doit retirer cette benne, hein, c'est ce qu'a décidé un juge qui dit dans son ordonnance, en empêchant l'accès de tout véhicule à une partie du terrain dont le Secours catholique est propriétaire, le maire de Calais a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété. Bon, ça restera administratif, hein, je veux dire, mais l'essentiel est là. L'accès doit être rétabli. Alors par contre, ce qui c'est bien, c'est la réaction de la mairie de Calais ne s'arrête jamais. Alors toujours avec la voix d'Emmanuel Ajuste, le premier adjoint du maire, qui se fait porte-parole à chaque fois, et qui l'a assuré à France 24... Le bras de fer va continuer. Je vous avais expliqué hein, que la municipalité, la mairie a lancé une procédure pour non-respect des règles d'urbanisme par le Secours catholique. C'est quand même un truc de fou. Que la mairie estime que le Secours catholique aggrave la fixation des migrants à Calais. Bon, pour l'instant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des personnes qui vont pouvoir se doucher, se laver. C'est un droit essentiel pour tous et pour toutes. Donc, c'est au moins ça, la bonne nouvelle, et je voulais mettre ça en parallèle avec ce qui s'est passé vendredi dernier à Paris. Là, ce sont des engins municipaux qui ont amené de grosses pierres sous le pont du boulevard Ney dans le 18e à Paris. C'est juste à côté du centre La Chapelle, qui est géré par Emmaüs, qui a ouvert ce centre en octobre dernier. Alors, les personnes arrivaient au centre et en attendant d'être accueillies à l'intérieur du centre, passaient souvent la nuit sous ce pont. Et ben, pour les empêcher que les gens puissent s'installer là, la mairie a fait installer des gros blocs de pierre. A priori, ça empêche quiconque de s'allonger. Donc, hein, c'est bien pensé et c'est bien fait. D'après la mairie, il ne faut pas que ce soit mal interprété. Non, vous pensez tous mal que tout de suite on veut s'en prendre aux migrants et aux étrangers. Non, non. La mairie explique qu'en fait, il va y avoir l'extension des travaux du tramway. Donc, il fallait installer des blocs de pierre. Hein, voilà.
Comme par hasard.
Comme par hasard, comme par hasard, comme par hasard. Ça tombait bien, et puis pareil qu'il faut que j'arrête de m'inquiéter, puisque les 143 personnes qui dormaient dans le secteur ont été prises en charge par les services de l'État et les associations et ont été mises à l'abri, je cite. Donc, je vois pas pourquoi je m'inquiète. Après tout, hein, tout le monde va bien, tout le monde est au chaud, c'est très pratique. Sauf qu'il faut se rappeler que les problèmes des associations à Paris, elles en ont beaucoup. Hein. Il faut se souvenir que il y a pas si longtemps, Médecins sans frontières et d'autres ont dénoncé les confiscations de couvertures, hein, en plein hiver. C'est sûr que ça peut être utile. Et puis, il y a les associations, les collectifs d'aide aux migrants qui rappellent qu'il y a une pression quotidienne sur les associations et sur les membres de ces associations. Par exemple, certains expliquent qu'ils se sont pris des amendes, 135 euros quand même, pour stationnement gênant, alors qu'ils et elles étaient en train de décharger les camions pour amener de la nourriture, par exemple. Hein, on est quand même dans un monde très très humaniste, moi je trouve. Bon, il y a aussi les groupes qui se sont fait, qui sont pris de la lacrymo, donc qui sont pris les flics, qui essayaient de les dégager. Apparemment, ils n'avaient pas l'air de vouloir bouger assez vite de l'endroit où ils avaient décidé de s'installer. Donc voilà, à Lyon, on a le préfet du Rhône hein, qui prend des décisions terribles en faisant croire qu'il met des personnes à l'abri pour ensuite fermer aussitôt le gymnase et les remettre à la rue, tout ça pour se faire de la pub. Globalement, ça va pas bien un petit peu de partout et la situation elle est un petit peu la même, c'est-à-dire que ce soit les préfectures ou les mairies, tout le monde tape sur les personnes qui sont aujourd'hui à la rue, d'où qu'elles viennent. Alors je vais continuer avec le travail le dimanche. Je vais vous parler d'une grève qui se déroule à Paris et qui se déroule dans les bibliothèques de Paris, puisque le grand plan de la mairie de Paris, c'est d'ouvrir les bibliothèques le dimanche. Comme ça, on aura tous et toutes plus facilement accès à la culture, paraît-il. Parce que le dimanche, je crois que c'est meilleur quand on lit. Alors, ça fait quand même depuis le 17 décembre qu'il y a des mobilisations dans les bibliothèques parisiennes. Il y a eu le 17 décembre, le 4 février, le 12 février, et rebelote, les grévistes remettent ça ce dimanche 19 février. Alors, je vous rappelle un petit peu la base de ce mouvement. Il y a globalement trois revendications. D'abord, sur les effectifs et les conditions de travail, c'est-à-dire que les effectifs ont été repensés dernièrement par la mairie de Paris. Et en fait, ils ont été repensés petits. C'est-à-dire que dès quelqu'un est malade, dès quelqu'un est en formation, eh ben c'est le bazar, la bibliothèque peut plus tourner, ou alors les gens sont vraiment dans l'incapacité de répondre favorablement aux usagers. Il y a un recours important aux étudiants vacataires, donc les grévistes parlent de médiathèques ubérisées, hein, c'est aussi des rémunérations à bas coût, hein, quand on fait venir des étudiants vacataires, excusez-moi. La deuxième revendication, c'est un rattrapage des primes de la filière culturelle, qui sont en fait les plus basses à la mairie de Paris, où ils me demandaient pas pourquoi, il y a des primes différenciées, enfin, c'est comme ça, selon les secteurs, et les primes des bibliothécaires, d'après les syndicats comme la CGT Culture, ces primes ont 40 ans de retard. Alors certains et certaines, surtout, expliquent ce retard par une féminisation du métier. Alors certes, vous allez me dire que ça change si vous allez un petit peu à la bibliothèque, mais c'est vrai que pendant très longtemps, il y avait quand même beaucoup de femmes. Est-ce que c'est la seule raison? Je ne sais pas. En tout cas, ils aimeraient bien que tout ça soit un petit peu réajusté. Et puis, il y a une troisième revendication qui touche plus spécifiquement, je vais y arriver, plus spécifiquement, j'y arriverai pas. Enfin, qui va toucher la bibliothèque Hélène Baire, qui, elle, est déjà ouverte depuis janvier le dimanche, et qui subit déjà cette mise en œuvre, puisque le plan va se faire progressivement. Alors, pour l'instant, du côté de la mairie de Paris, ça bouge, mais alors pas du tout. Globalement, tout le monde a l'air très fier de ce grand plan d'ouverture des bibliothèques le dimanche, et donc, il y a eu a priori 45 réunions. Tout le monde s'en fiche à la mairie, par les grévistes continuent, vous voyez, dimanche après dimanche, à faire grève. Et puis, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces bibliothécaires ne sont pas contre le travail le dimanche, au final. Certaines disent, pourquoi pas. Mais il y a quand même une recherche de la pertinence, c'est-à-dire pour quel public, dans quel quartier. Puisqu'il y a toujours cette volonté d'uniformiser tous les horaires, sauf que, selon les quartiers, peut-être qu'effectivement, il faut ouvrir le dimanche, puis fermer le lundi-mardi, mais pour d'autres, peut-être que ce serait bien d'ouvrir le lundi. C'est un peu comme sur Lyon, ça sert à rien que ce soit tous les mêmes horaires, il faut aussi s'adapter au public qui vient et au quartier. Et puis, les syndicalistes et les grévistes rappellent que on est aussi sur Paris, c'est-à-dire de grands déplacements quand même pour aller travailler pour certains et certaines bibliothécaires, et que le dimanche, il n'y a pas les mêmes horaires des transports en commun par exemple, et que parfois c'est une vraie galère pour venir, et que on passe plus de temps dans les transports en commun que sur son lieu de travail, et puis qu'il y a encore évidemment toutes les problématiques de garde d'enfants et ainsi de suite et ainsi de suite. Parce que la prime, elle est bien basse par rapport aux réalités de ce que c'est de faire garder son enfant. Il y a la déstructuration, évidemment, de la famille et de tout le reste. Donc voilà, c'est une grève qui dure, qui est pas violente. C'est des gens gentils, les bibliothécaires. Mais ils commencent à en avoir marre de ne pas avoir de retour de la part de la mairie de Paris.
On va parler un peu d'environnement maintenant, avec plusieurs infos. Donc la première autour des habitants de Fos-sur-Mer, deuxième étude qui sort. Donc Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis-du-Rhône, donc deux villes situées autour d'une énorme zone industrielle et portuaire, près de Marseille, dans le sud de la France. Donc c'est l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail, qui a établi des conclusions dont je vais vous parler tout de suite, qui sont tirées en fait d'une autre étude qui a été réalisée par le Centre Norbert Elias de Marseille. Ils ont étudié la santé de 816 personnes habitant dans la zone de l'étang de Berre. Tambert, c'est juste à côté de Fos-sur-Mer. Donc, ce qu'ils ont noté, donc des affections respiratoires qui concernent près d'un adulte sur deux et d'un enfant sur quatre dans la zone étudiée. Alors, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? Oui, c'est beaucoup plus que pour les personnes qui habitent ailleurs, c'est-à-dire même en ville, dans des endroits un peu pollués, on est très très au-dessus de la réalité. Par exemple, pour l'élévation de l'asthme, c'est l'adulte, il y a 15,8% de prévalence, comme il dit, c'est-à-dire de présence d'asthme chez l'adulte, là-bas, alors que la moyenne en France est de 10%. Sur les cancers, c'est aussi significatif et aussi important, puisque notamment chez les femmes de Fos-sur-Mer et de Port-Saint-Louis, on est à 14,5% de femmes qui ont eu un cancer. Pour le reste de la France, c'est 5,4%. Donc on est quand même largement, on est presque trois fois au-dessus. Pour les diabètes, c'est deux fois plus, 11,6 dans cette région-là, contre 6 dans le reste de l'Hexagone. Bon, ça fait pas mal. Grosso modo, 63% de la population de cette de Fos-sur-Mer et donc de autour de l'étang de Berre là, ont une maladie chronique, compte 36,6% en France. Donc les maladies chroniques, c'est l'asthme, les maladies respiratoires autres que l'asthme, l'allergie respiratoire autre que pollen, bien sûr, les problèmes dermatologiques, les cancers, les maladies auto-immunes, le diabète, etc., etc. Alors ça démontre une fois de plus que les zones industrielles peuvent être des sources importantes de pollution. Je vous parle pas de ceux qui habitent à Fézin, etc. pour ce qui concerne la région lyonnaise. Hein. On imagine bien les mêmes problématiques, mais on peut que l'imaginer, puisque nous n'avons pas beaucoup d'études pour étudier la santé des gens qui habitent autour de la raffinerie et autour du pôle chimique du sud lyonnais. Donc on peut quand même extrapoler et se dire qu'il y a sûrement un impact à l'image de celui des habitants de Fos-sur-Mer et de Saint-Louis-du-Rhône. Donc voilà, bon, c'est juste une nouvelle étude de plus qui enfonce le clou, et on savait déjà un peu tout ça, mais ça remet en avant les problèmes liés à la production industrielle polluante, parce qu'il y a des moyens de produire industriellement en polluant beaucoup moins, même si l'industrie a beaucoup fait de progrès, non pas par choix, mais par la force ces dernières années. On est encore loin d'une solution idéale. Alors, on va parler aussi un peu du climat et du CETA. Vous avez tous et toutes entendu qu'hier, dans la gloire et la bonne humeur, le Parlement européen a ratifié l'accord du CETA, donc ce fameux traité de libre-échange avec le Canada. D'ailleurs, aujourd'hui, Justin Trudeau était au Parlement européen, il s'est exprimé, il a essayé de calmer un peu les craintes des opposants. En fait, je crois qu'il s'en fout, il fait semblant, hein, puisque c'est un ultralibéral, le petit Trudeau. Et bon, il a dit que voilà, qu'une Union européenne forte et profitable au monde entier, c'est normal de s'allier, bref, de l'angélisme libéral, mais on n'attendait pas autre chose de lui. Mais, entre-temps, pas mal de gens se sont posé la question et de l'impact du CETA sur l'environnement. C'était une des problématiques des opposants. Alors, mais il y avait bien d'autres choses, hein. Il y avait les tribunaux, vous savez, ces tribunaux qui ne dépendent plus d'État, mais bon, qui sont grosso modo au service des multinationales. Mais on va parler du lien avec le changement climatique, et notamment avec l'accord de Paris qui a été signé par la France. Or, cette négociation du CETA a été faite avant l'accord de Paris. Donc il y a notamment la fondation Nicolas Hoelio qui avait rappelé ça aux eurodéputés, qui leur avait demandé de ne pas ratifier. Bon, ils ne l'ont pas écouté, vraisemblablement. Ça, je crois qu'on en est sûr, vu qu'ils ont voté hier à très grande majorité. Mais entre-temps, on a eu un communiqué du ministère qui fait des propositions, justement, pour s'accorder, enfin pour accorder le CETA avec l'accord de Paris. Donc ils ont formulé 10 recommandations. La première d'entre elles, d'ailleurs, qui n'est pas reprise dans le communiqué du ministère, qu'ils ont oublié volontairement, on imagine bien, c'est de procéder à une évaluation de l'accroissement des émissions de gaz à effet de serre générées par un nouvel accord commercial. Évidemment, quand on développe le libre-échange, on développe les échanges commerciaux, donc la pollution liée au transport. Et alors il y a un rééquilibrage, mais du coup une partie des produits sont plus fabriqués au Canada mais fabriqués en Europe, et on les transporte, et vice versa. On a comme ça un rééquilibrage des forces économiques avec une augmentation mécanique, on va dire, des transports, ce qui augmente les émissions de gaz à effet de serre, de CO2 notamment, et de plein d'autres. Et bizarrement, la France s'est engagée dans l'accord de Paris à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre. Or, en signant des accords de libre-échange, on les augmente. Donc, il y a un petit problème quand même dans le bousin, hein, dirons-nous. Alors, grosso modo, ça c'est la première recommandation, il y en a 9 autres. Le rapport se penche sur les normes et les réglementations environnementales. On sait que le CETA reconnaît le droit à chaque partie à poursuivre ses politiques publiques dans des domaines comme la santé et l'environnement. Donc ça, on a le droit, sauf que il y a un truc horrible qui s'appelle le FCR, le Forum de coopération réglementaire. Le but de cette instance, qui est très très flou pour l'instant, c'est d'arriver, de négocier des normes communes. Et les normes communes, si c'est les normes les plus exigeantes qui sortent vainqueurs, bah, tant mieux, sauf que on imagine bien, vu que c'est très très flou et qu'on ne sait pas qui va être dedans et comment ça va se passer, qu'il y a des chances que ça soit les libéraux, les capitalistes qui soient dedans, et que ça soit les normes les plus basses qui gagnent, donc avec conséquence une destruction de l'environnement. Donc ça, c'est quand même ce rapport du ministère français qui dit qu'attention, il faut faire attention à ça, il ne faut pas qu'on diminue nos normes environnementales, puisque sinon on ne respecte pas une fois de plus le rapport de Paris. Et le rapport parle aussi de la question des pétroles non conventionnels. On se rappelle que dans l'Alberta, donc cette région du Canada, on y extrait des pétroles de schiste, des pétroles issus des sables bitumineux aussi, avec destruction énorme de l'environnement, et que si jamais ces pétroles issus des sables bitumineux, ils arrivent en Europe, eh ben le bilan carbone, il est catastrophique. Il est bien pire, et ce qui est déjà pas glorieux, du pétrole normal, enfin issu d'Arabie Saoudite ou autre. Et donc ça aussi, ils en reparlent. Enfin bon, voilà, il y a toute une série comme ça de recommandations, et on se dit, mais c'est bizarre, pourquoi ils font ces recommandations maintenant et qu'ils les ont pas fait avant, au moment où il y avait négociation, parce qu'il aurait peut-être fallu, soit, bon, nous, on se sera opposé au CETA, mais au moins négocier autre chose dans le CETA. Donc voilà, c'est tout ça est un peu hypocrite, tout ça est très flou. D'ailleurs, c'est fait pour ça que c'est flou, ces accords. C'est pour permettre aux capitalistes de gagner sur la protection sociale, la protection environnementale des populations. Donc voilà, c'était pour rappeler que le CETA avait été signé et que ceux qui devraient, enfin, ce qui devrait être le plus perdant avec le social, ça reste l'environnement. Voilà. Et un petit truc, je vais terminer par une info drôle. Voilà. La FNSEA, vous savez, le syndicat des agriculteurs pollueurs, a fait une journée de réunion et d'information sur l'agriculture biologique. Non. Si, parce qu'ils ont des adhérents qui font du bio. Alors, faut quand même être un peu bête, voire complètement débile, pour faire du bio et adhérer à la FNSEA.
Non, parce que toi, tu vois le petit producteur oui, local, dire, comme celui que tu vas dans tu vois dans ton marché, à qui tu dis « Salut, ils sont jolis tes choux !» Sauf que dans le bio, aujourd'hui, il y a une industrialisation aussi.
Il y a ça, mais il n'y a pas que ça.
Non,
il y a aussi des petites exploitations qui adhèrent quand même à la FNSEA, parce que la FNSEA, c'est le gros syndicat, parce qu'ils ont peur des autres qui sont des gauchistes, etc. Enfin, je parle de la Confédération Paysanne. Donc, il y a effectivement des différentes raisons. En tout cas, ils ont fait deux tables rondes lors de cette journée sur le bio pour parler des attentes des consommateurs, du développement de la filière bio, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a le fait que ça se développe. Eux, ils y voient du business. Il faut se mettre dedans. Mais enfin, bon, bref. Malgré tout ça, Étienne Gagneron, le président de la commission agriculture biologique de la FNSEA, a rappelé que le bio a toute sa place à la FNSEA, à côté de la production traditionnelle, c'est-à-dire celle qui bousille la nature, celle qui pollue, celle qui nous rend malade, celle qui donne des cancers, etc. Voilà. Et on terminera par cette merveilleuse phrase qui dit la même chose de monsieur Xavier Belin, le chef de la pollution, le premier,
que nous aimons beaucoup, voilà, ici.
Premier, finalement, complice de la pollution en France, puisque la première pollution aujourd'hui, malheureusement, c'est l'agriculture. Il a dit « Notre syndicat est attaché à défendre toutes les productions sur tous les territoires, c'est ce qui fait sa force. Nous devons revendiquer la grande diversité de l'agriculture française. » Lui qui n'est pas agriculteur, d'ailleurs, qui est président d'un syndicat agricole, lui qui est industriel. Bon voilà, c'est une belle escroquerie, ça nous aura bien fait rire, mais un rire quand même un petit peu jaune, dirons-nous.
Eh bien, nous allons parler théâtre pour terminer ce Canu Info. Nous vous proposons de vous parler de la pièce qui se joue jusqu'à demain au Théâtre des Célestins, dans la salle Célestine, donc c'est-à-dire dans la petite salle.
La toute petite salle en bas. Ouais.
Voilà, qui est une toute petite salle. Un spectacle mis en scène par Arnaud Meunier sur un texte de Stefano Massini, « Je crois en un seul Dieu ». Alors c'est un spectacle avec une seule comédienne, Rachida Brakni, absolument exceptionnelle. C'est une pièce qui a été créée pour la Comédie de Saint-Étienne pour cette année 2017.
Un texte qui était prévu pour trois personnages quand même.
Oui, mais qui est pour une comédienne. Trois personnages, effectivement, mais bien une comédienne, c'est comme ça que cela a été pensé. Nous retrouvons Eden, Shirin et Mina. Cela se passe en Israël. C'est un récit croisé d'Eden, une 50 ans, professeur d'histoire juive, gauchiste, on pourrait dire.
Hein, ouais, non.
Si, d'une certaine gauche israélienne bien pensante.
Travailliste, quoi.
Voilà, je vais le présenter comme ça. Shirin, la vingtaine, palestinienne.
De la bande de Gaza. Et future terroriste.
Elle veut devenir martyr d'Al-Qassam. Et puis Mina, une militaire mature, entre deux âges, des États-Unis d'Amérique, Et toutes les trois tournent autour d'une date, le 29 mars 2002. Ces trois femmes vont vivre chacune un même événement, ces trois versions, trois récits, qui vont tous les trois ces récits tendre vers un même événement, c'est-à-dire un attentat à Tel Aviv. Le récit prend un an, ça dure 12 mois jusqu'à aller vers cet attentat. Ces trois récits qui se mêlent, qui s'entrechoquent, qui se croisent, chacune ont leur réalité. Eden, cette israélienne, à la fois elle est bienveillante, mais en même temps, après un premier attentat, elle se sent finalement coupable de détester les Arabes, les Palestiniens. Elle essaye de dominer sa peur. On a Shirin qui est quand même exaltée, toute jeune, qui passe les tests pour devenir une martyre, mais qui elle aussi se laisse envahir par cette peur. Et puis il y a Mina, cette militaire cynique, blasée, qui ne comprend pas finalement ce qu'elle fait là, qui ne comprend pas ses religion.
Et qui comprend pas la haine, c'est ça, des juifs israéliens contre les Palestiniens de la bande de Gaza. Alors là, une musulmane pour le coup, mais effectivement, elle comprend pas. Elle dit c'est n'importe quoi. Elle est très cynique.
Ouais. Et donc elle se croise pas. Rachida Bakni passe d'un personnage à un autre, d'une femme à une autre.
Alors il n'y a pas de transition, c'est en permanence. Un coup elle est l'une, un coup elle est l'autre. Sauf que c'est tellement, elle joue tellement bien qu'en fait on sait à tout moment laquelle elle est en fait.
Oui, et puis sans vulgarité,
c'est
vraiment
le texte qui dit
c'est
ça.
Mais... très très subtil. Le seul moment où vraiment on sent son corps se modifier, c'est quand elle est Mina, cette militaire. Mais sinon tout ça est très subtil. Le texte est captivant. Moi je trouve que c'est bouleversant. Et Rachida Bakni, elle l'est accompagnée simplement par un jeu de lumière. Il y a une sobriété, un dépouillement dans ce décor. C'est un cube dont les murs sont gris et blanc, percé de quelques ouvertures noires. Elle est accompagnée par la lumière, un accompagnement sonore très rare, très posé, et des moments que moi je trouve très impressionnants quand une des bombes explose, à la fois la mise en scène, la lumière qui se réverbère sur ces murs blancs et gris, le jeu de cette actrice, de cette comédienne formidable, ça donne, je trouve, c'est saisissant. J'espère que jamais dans ma vie je ne vivrai un tel attentat avec cette bombe, mais on a l'impression d'y être, ça vous prend vraiment, moi je trouve, c'est corporel. C'est un spectacle absolument magnifique, grâce à cette femme sur scène, grâce à une mise en scène dépouillée, et finalement beaucoup de subtilité à la fois dans la lumière et dans le son. Le texte est intéressant parce qu'il est aussi, moi il m'énerve à des moments.
Oui, parce que c'est, alors
Eden elle m'énerve,
y a aucune,
évidemment.
Il n'y a aucune analyse, c'est un texte brut, donc de ce que peuvent ressentir ces trois femmes. Du coup, il y a quand même la méchante terroriste qui va tuer les autres, l'israélienne qui comprend pas tout puis qui se dit finalement s'ils sont méchants ces Arabes, et l'américaine qui elle au moins elle a le beau rôle quelque part en étant cynique et en comprenant pas
la bêtise des autres. Elle est observatrice aussi à la base.
Voilà. Mais du coup c'est pas un texte pro israélien ou pro palestinien, mais comme il y a pas d'analyse, du coup quand même la méchante c'est la palestinienne.
Et oui,
du
mais Stéphane Massini c'est pas ça qui s'intéresse,
oui,
moi je trouve.
Je suis d'accord, c'est pas ça ce qu'il a voulu montrer. Je pense pas qu'il soit pro israélien. Voire j'en suis sûr, mais n'empêche que c'est ce qui ressort du quand on voit le truc, on se dit ah bah elle c'est la méchante parce qu'elle va tuer les autres, alors que parce qu'à aucun moment on ne sait les raisons, on ne revient pas sur l'occupation, sur tout ce qui accompagne le processus qui amène cette femme de 20 ans à faire des attentats, devenir une martyre, parce qu'il y a tout un processus, on ne devient pas martyr, on n'est pas dans la bande de Gaza et à 3 ans on est martyr, il y a tout un processus, là on l'a pas le processus, puisqu'on a juste à ce moment-là ce qu'elle pense et ce qu'elle a envie de faire.
Ouais, mais tu donnes un ton politique à une pièce qui ne part pas de ce côté-là. Pour moi, Stefano Massini, il veut montrer aussi la bêtise et l'ironie. C'est-à-dire que finalement, elles ont chacune une vie, elles se croient peut-être fortes et puissantes, chacune à leur manière. Une est universitaire, l'autre est militaire, l'autre est martyre, mais au final, elles ne sont rien, elles sont que dans un univers, dans un monde qui est tout pourri autour d'elles. Elles le vivent en étant finalement mal dans cette tout cet univers. Et je trouve que Stefano Massini, c'est ça qui montre aussi, c'est la vie, elle se retourne contre toi. Finalement, c'est pas si simple. Qu'il soit pas critique, moi je m'en fiche. On n'est pas obligé toujours d'avoir un cinéma ou un théâtre qui va montrer et vulgariser la réalité des Palestiniens, des Palestiniennes.
Mais ça veut dire
pour
que
moi,
les gens
c'est une réalité israélienne, oui. C'est celle-ci.
Mais ça veut dire que les gens qui vont voir la pièce, s'ils n'ont pas de culture, ils comprennent pas.
Je suis pas d'accord avec toi. Je crois pas. Eden, cette professeure d'histoire juive, moi, elle m'est pas sympathique, mais pas juste parce qu'à un moment, elle se met à détester les Palestiniens, même si tout ça est très subtilement dit. C'est qu'en fait, elle se dit finalement, elle se présente un peu comme de gauche dans son discours, mais elle l'assume absolument pas. Et finalement, il suffit de la terreur pour te faire changer d'avis. C'est aussi ça que Stefano Massini montre. Et puis Shirine, elle veut être martyre, mais bon, c'est bien joli tout ça. Et alors, pourquoi, quand elle doit tuer ses propres amis, c'est là aussi où que finalement tout se retourne contre elle, puisqu'il y a des gens qui se servent d'elle. Et donc voilà, je pense que c'est un théâtre finalement politique, mais qui est d'une écriture et d'une subtilité qui tend aussi à faire le jeu des mots et le jeu de l'ironie et de la bêtise des êtres humains. Et comment trois femmes ne se connaissant pas vont se croiser à un moment avec des idées bien différentes.
Alors, on imagine la femme, parce que tout n'est pas dit sur la fin. Enfin, on imagine très bien. En tout cas, le pied de nez finalement à tout ça, c'est qu'à la fin, la Palestinienne et l'Israélienne, l'Israélienne à cause de la pluie, la Palestinienne de par sa religion, sont confondues. Parce qu'elles ont le même voile, donc voilà, il y a une espèce de, effectivement, de dire, bah finalement, est-ce que c'est pas les mêmes quelque part et que finalement.
C'est ce que Mina dit. Hein,
l'américaine aurait raison, elle pourrait vivre ensemble.
Voilà. Donc je trouve que voilà, c'est une pièce intéressante. Très sincèrement, vous trouverez pas de place parce que je crois que c'est complet, mais c'est un spectacle qui tourne beaucoup, donc vous avez peut-être la chance de pouvoir le voir ailleurs ou peut-être de le revoir parce que c'est un spectacle qui pourrait peut-être revenir aussi.
Ah bah, le spectacle marche aussi parce que c'est une actrice fabuleuse.
Ah, mais elle
parce que
est
quelqu'un
absolument...
qui ne serait pas très très bon, ça ne marcherait pas du tout.
Elle est absolument formidable, seule en scène pendant 1h40, sans interruption. C'est un travail fantastique. Le travail de Nicolas Marie à la lumière et la scénographie est aussi, moi je trouve, vraiment exceptionnel. C'est un beau spectacle et c'est bien qu'à Lyon on puisse aussi avoir des grands théâtres comme ça qui nous proposent des beaux spectacles, et il y en a d'autres partout à Lyon. Voilà, moi je trouve que ce texte de Stefano Massini est très intéressant.
On va faire un petit agenda avant de se quitter. On va commencer par demain, le groupe antifasciste de Lyon et environ, ça s'appelle comme ça, avec la maison de la Mésopotamie, organise donc un repas, une projection en soutien au peuple kurde qui est en train de tout perdre dans cette guerre avec la Syrie et la Turquie, dans cette région-là. Puisque dans la réunion d'aujourd'hui, à Astana, ils n'étaient pas, hein, les Kurdes. Hein. Donc ils vont vraiment tout perdre et être lâchement, je pense, abandonnés par les Américains qui les ont soutenus jusqu'à maintenant. En tout cas, si vous voulez les soutenir, c'est le cas ou jamais. Donc demain soir à 19h à l'atelier des Canulars, donc 91 rue Montesquieu dans le 7e, il y a une soirée avec un repas, une projection, donc à partir de 19h à l'atelier des Canulars, à prix libre. Je crois, ouais, il me semble. Ce week-end, il y a le festival Bugès et Trip. Hein, c'est tous les ans, donc au mois d'hiver, la version d'hiver. Là. Donc c'est le 8e numéro. Un festival pour ceux qui sont dans le Bugès, c'est-à-dire aux alentours de Hauteville-Lompnes. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais ça doit être Lompnes. C'est dans la salle des fêtes de Hauteville-Lompnes, samedi à partir de 15h. Donc ça commence à 15h30 avec une conférence qui s'appelle Mutation du travail, mutation du management. Suivi d'un débat donc autour du travail. Après, il y a un apéro à 18h, un apéro mix et des animations pour les enfants en même temps, pour les parents qui auraient des enfants et qui voudraient assister aux conférences. 19h30, un spectacle, un cabaret spectacle très exactement. Et à 22h, des concerts avec du punk, du funk, du rap, du dub, de la techno, enfin plein de choses. Voilà, donc c'est à la salle des fêtes à Hauteville, Lompnes, un truc comme ça. Voilà, autre chose. On va samedi maintenant. Bah, toujours samedi, on va dire. C'est quelqu'un qui a fait une thèse sur le travail, les subjectivités et les luttes des travailleuses domestiques non arabes au Liban. On en parlait tout à l'heure, notamment pas mal de Philippines, de femmes qui viennent des Philippines. Donc ça va parler de ça, c'est organisé par le collectif des politiques anticoloniales déterminées et autogérées, ça s'écrit PANDA. C'est donc à 15h à la librairie Terre des Livres, 86 rue de Marseille, avec Mina Younes, donc pour parler de ces travailleuses domestiques migrantes qu'on trouve au Liban, hein, mais qu'on trouve donc dans les pays arabes, on va dire Arabie Saoudite, Koweït, et dans pas mal d'endroits malheureusement maintenant dans le monde. Et puis le samedi soir, organisé au 6e continent, 51 rue Saint-Michel dans le 7e, il y a la Boom des super féministes, groupe qui existe depuis 5 ans. Donc il y aura de la musique, des choses à grignoter, tout ça, ça sera en soutien au planning familial. Donc voilà, c'est samedi soir au 6e continent dans le 7e. Il est 20h à la pendule la plus rebelle des radios. On se retrouve la semaine prochaine, 19h-20h.
C'est tout à fait vrai, je confirme, nous serons bien là.
Et demain pour le prochain Canu Info.
Et bien à bientôt. Ciao, ciao.
Bye.